Le pardon, c'est le thème de la conférence du père franciscain Michel Hubot, conférence enregistrée à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte le samedi 23 février. Dans une première partie, le père Hubot nous relate les différentes étapes psychologiques du pardon et dans une seconde partie, il nous dit ce que la foi judéo-chrétienne apporte de nouveau au pardon. Voici donc la conférence du père Michel Hubot.
On demande pardon plusieurs fois par jour. Quand on bouscule son voisin, quand on craint de déranger quelqu'un, pardon. Dire pardon, c'est déjà se décentrer de soi-même et respecter l'autre. Mais s'il est relativement facile de pardonner à celui qui vous double devant un guichet, il n'en est pas de même quand un pédophile récidiviste a assassiné votre enfant. Et pourtant, le pardon demeure d'une brûlante actualité à tous les niveaux des relations humaines, un conflit dans les couples, dans les familles, dans les communautés, entre personnes divorcées, entre amis, entre voisins, entre nations. Tous, un jour ou l'autre, nous sommes donc confrontés à ce besoin de pardonner, soit pour établir un équilibre personnel, soit pour continuer tout simplement à vivre ensemble. Si le pardon occupe une place centrale dans la spiritualité des grandes religions, notamment la religion chrétienne, cette réalité a souvent été, disons, caricaturée. Ne pardonne pas qui veut. Et j'ai souvent rencontré des personnes désireuses de pardonner, mais qui se sentaient bloquées. On croit parfois avoir pardonné, et voilà qu'on est submergé par des bouffées d'agressivité, de colère, de sentiments négatifs qui peuvent nous conduire jusqu'à la dépression et des manifestations psychosomatiques, ulcères ou autres maladies plus ou moins graves. Le pardon est un sujet délicat, hein, parce que chacun d'abord l'aborde avec son expérience et ses blessures personnelles. Et la plupart de ceux qui ont été blessés dans leur intégrité physique ou morale vous diront, parfois même vous crieront à la figure, qu'il y a des cas où le pardon est impossible, inhumain. Il peut même susciter le rejet viscéral. Je prends un exemple, la romancière Eva Thomas, qui dans son livre « Le viol du silence » raconte comment, après avoir été violée par son père à l'âge de 15 ans, elle a mis plus de 30 ans pour sortir d'abord de sa propre culpabilité et crier enfin sa colère. Une parole publique qui l'a libérée de cette infamie qui pesait sur elle et a apaisé sa haine. Mais pour elle, pas question de pardon. Élevée dans un milieu pourtant catholique, elle dit dans son livre qu'elle déteste ce mot. Et je la cite, « Le pardon du chrétien qui considère la faute comme non avenue, c'est de l'hypocrisie. » Et elle continue, « Le petit Robert, qui en énonce quelques synonymes, propose les mots miséricorde, absolution, indulgence, grâce. Ces notions-là, pour une victime de l'inceste, sont impossibles. » On peut aussi comprendre la réaction d'un Jankélévitch disant « Le pardon est mort dans les camps de la mort. Nous ne pouvons pas l'accepter. » Il y a aussi pourtant, à l'inverse, des témoignages qui, sans forcément se réclamer d'une religion, vous laissent perplexes, font reculer l'horizon de l'homme, des personnes qui arrivent à accéder au pardon, certains par une foi en l'avenir de l'homme ou en l'amour plus fort que le mal. Je prends un autre exemple. Dans les années 80-90, un jeune homme, Frédéric, tue sa fiancée, celle avec qui il sortait, Chantal, pour je ne sais quelle raison. Et au cours du procès aux assises de Paris, on a entendu les parents de Chantal déclarer publiquement à la barre « Nous avons pardonné ». Nous avons reçu une lettre de Frédéric nous demandant pardon. Et ces parents de Chantal, assassinés, ont même voulu rencontrer les parents de Frédéric, de l'assassin, partager ce drame avec eux, en disant « C'est Frédéric qui a besoin d'aide maintenant, il est devenu comme un enfant adoptif pour nous ». Et je me souviens aussi de cette interminable guerre fratricide du Liban, où j'avais été invité, c'était je pense en 1983, ça devait être pour la centenaire de Saint-François, et il m'avait demandé de faire une conférence, toute la famille franciscaine, donc il y avait là, dans la salle, capucins, franciscains, Clarisse, franciscains séculiers, une conférence sur Saint-François et la paix. Je savais pertinemment que dans cette salle, presque tous avaient perdu un frère, un père, dans cette guerre qui n'en finissait pas, on entendait dire le canon qui grondait, j'en étais à Junier, la baie de Harissa, Beyrouth, on entendait le canon à Beyrouth. Et après cette conférence, au moment où j'allais partir, il y a celui qui me raccompagnait en voiture m'a tendu un billet en disant « Mon père, j'aimerais que vous disiez une messe pour mes deux fils qui ont été torturés sous mes yeux, 19 ans, 21 ans. On leur a arraché les yeux, les oreilles, la langue devant moi. Et je vous demande de dire une messe pour ceux qui les ont tués. » Je suis resté muet. Je pense que j'ai pris conscience soudain que le pardon n'était pas à mesure humaine. D'ailleurs, je lui ai dit, écoutez, ce que vous faites là n'est pas à mesure humaine. Et pour moi, je crois que c'est une des plus belles manifestations de l'esprit dans le cœur d'un homme. J'ai compris ce soir-là plus fortement que pardonner, c'est vraiment avoir part au don de Dieu. L'étymologie du mot français permet ce rapprochement, participer d'un seul coup à la gratuité de l'amour. Je pense que notre désir de vengeance, d'un seul coup, est déraisonnablement stoppé. Et je crois qu'il faut pas se scandaliser du fait que le désir de vengeance soit le plus spontané au cœur de l'homme. Il faut commencer par reconnaître que la démarche psychologique et spirituelle du pardon est un processus complexe, plus ou moins long et difficile, mais il est souvent le fruit d'un véritable cheminement intérieur, et ceci c'est vrai, croyant ou non. Et pourtant, je vous le disais, le pardon est nécessaire pour guérir et grandir. L'homme ne peut pas vivre, retrouver une certaine paix intérieure et construire l'avenir sans pardon. C'est vrai au niveau personnel, c'est vrai au niveau des relations entre peuples. Il a bien fallu, pour construire l'Europe, dépasser les horreurs de la guerre franco-allemande, etc. Parce que, en dehors du processus du pardon, quelles sont les autres alternatives possibles ? Hein ? Vivre dans un ressentiment permanent, obstinément accroché au passé ? Alors on se condamne à vivre difficilement son présent et à bloquer son avenir. Se venger, mais la vengeance ne contribue en rien à guérir ma blessure. Et l'obsession de la revanche nous rend prisonniers d'une spirale de violence, d'un cycle infernal. Vous voyez, Israël et les Palestiniens, c'est le cycle infernal. Je t'en tue un, tu en tues deux, Pour s'engager dans le processus du pardon, il est d'abord important de nous débarrasser des fausses idées sur le pardon. Et il y en a. Et c'est pour ça que dans mon livre, je consacre tout un chapitre déjà à essayer de clarifier de quoi parle-t-on. D'abord, pardonner, ce n'est pas oublier. C'est une des confusions les plus fréquentes, c'est de confondre pardon et oubli. Très souvent, quand quelqu'un vous dit « ça, je ne pourrai jamais le pardonner », il pense « ça, je ne pourrai jamais l'oublier ». Or, le pardon n'est pas l'oubli. Et oublier, ce n'est pas pardonner. Vous savez qu'à l'entrée de la crypte du mémorial de la déportation à Paris, il y a cette inscription « Pardonne, n'oublie pas ». On n'abolit pas le passé sur commande. Pour pardonner ou être pardonné, il faut assumer le passé, sa propre histoire. Mais quelle mémoire faut-il sauvegarder ? Certainement pas la mémoire obsessionnelle du ressentiment, telle que la vendetta corse, qui au XVIIIe siècle a exterminé les deux tiers de la population. Même le pardon chrétien ne saurait abolir la mémoire. Et Jésus lui-même a lié la mémoire et l'offense. Dans Matthieu au chapitre 5, quand tu vas présenter l'offrande à l'autel, si tu te souviens, mémoire, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec lui. Donc, le pardon, ce n'est pas oublier. Pardonner ne signifie pas nier les faits, ce qui est assez proche, dans le fond, de vouloir oublier. Faire comme si rien ne s'était passé. Tourne la page, passe l'éponge, t'arrête pas cet affront, continue ta vie. Voilà une manière de parler et de faire qui conduit à des impasses. Cette manière d'annuler l'événement rend toute guérison impossible. Ce faux pardon, et parfois même avec des motivations spirituelles, est un simple refoulement psychologique, parce qu'on ne peut pas renier une partie de soi qui a été blessée. Cette approche trop désincarnée du pardon ne tient pas compte de l'émotivité de la personne, ce qui peut avoir effectivement des effets très néfastes, angoisse, dépression, perte de sommeil, stress, perte d'appétit inexpliqué, etc. Il ne suffit pas de dire « pardonne et on n'en parle plus ». Le pardon magique et instantané n'existe pas. Car nous ne sommes pas tout-puissants sur le monde de nos émotions. Le pardon ne peut être un simple acte de la volonté, mais l'aboutissement d'un cheminement plus ou moins long au cours duquel nos différentes facultés vont être mobilisées. Pardonner à l'autre, ça ne veut pas dire l'excuser. Excuser quelqu'un, je lui pardonne, ce n'est pas de sa faute. Excuser quelqu'un, c'est nier sa liberté responsable. Chacun est responsable de ses actes, plus ou moins, bien sûr. Pardonner ne peut pas être commandé. Le pardon est libre ou il n'existe pas. La tentation est grande, c'est chez certains prédicateurs chrétiens, d'obliger à pardonner. Il faut pardonner. Le commandement de l'amour est de pardonner aux autres. Ça ne se commande pas. Et je crois que ce n'est pas bon de réduire le pardon à une obligation morale, parce qu'on perd son caractère gratuit. Et je pense que cette manière de voir un peu erronée a été confortée par aussi une mauvaise interprétation, entre autres, du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme si le pardon de Dieu était conditionné par nos pauvres pardons humains. Je crois qu'il faut sans doute interpréter autrement cette formule très ambiguë que je regrette. Il faut plutôt la lire dans le sens des paroles de saint Paul qui écrit « Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. » Dans Colossiens 3,13. Pardonner, ce n'est pas se retrouver comme avant l'offense ou renoncer à ses droits. Ça aussi, c'est important. Une femme incapable de pardonner à une amie qui avait trahi sa confiance en révélant des confidences qu'elle lui avait faites, disait « Je ne peux pas lui pardonner, car je me sens incapable de redevenir la même amie pour elle. » Donc dans sa tête, pardonner signifiait revenir comme avant. Quand dans un couple, l'un des conjoints fait l'aveu d'une infidélité passagère, ça peut arriver, nous sommes tous de pauvres hommes, fragiles, le pardon n'élimine pas la blessure. L'acte de pardonner ne consiste pas à rétablir les mêmes rapports que nous avions avant la faute. Il est impossible de faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas possible. On peut pardonner, rétablir la relation, mais sur de nouvelles bases, sans doute moins idéalisée. Hein ? Bon, mais on ne peut pas faire comme si rien s'était passé. Donc, pardonner ne signifie pas non plus renoncer à ses droits, hein, à ce que justice soit faite. Je peux très bien pardonner à mon ex-mari, mais je peux en même temps prendre un bon avocat s'il ne respecte pas ses devoirs. Par exemple, de pension alimentaire pour ses enfants. Bien sûr. Le pape Jean-Paul II a pardonné à son assassin, il n'a pas empêché la justice de suivre son cours. Si je pardonne, ça ne veut pas dire que j'ignore les lois de la justice qui doivent déterminer la culpabilité du coupable et la sanction appropriée. Encore faut-il que cette sanction ne soit pas vécue comme une vengeance publique et légalisée. Il doit payer, plutôt comme un chemin de réhabilitation, ce qui est rarement le cas, malheureusement. Alors, voyons un peu les grandes étapes du pardon. Je vous disais que le pardon est à la fois une aventure humaine et spirituelle, qui donc nécessite le concours de toutes nos facultés, d'hommes et femmes, et la grâce de Dieu. C'est vrai, je le répète, que le pardon n'est pas à mesure humaine, et que l'homme, nous le verrons, sans la force de l'esprit, est incapable de pardonner. Mais c'est bien l'homme, éclairé, animé par l'esprit, qui doit prendre l'initiative de pardonner. Dieu ne fera pas à sa place. Le pardon, je le dis, ce n'est pas un fruit de coup de volonté, mais c'est vraiment un cheminement intérieur, plus ou moins long, quelquefois des années. J'ai mis des gens qui ont mis 10 ans, 20 ans pour pardonner. Et ce processus du pardon suit un certain nombre d'étapes, dont le nombre varie. Quand vous lisez les livres, nombreux livres là-dessus, les psychothérapeutes n'ont pas tous le même nombre, mais dans l'ensemble, on retrouve plusieurs passages obligés. Premièrement, première étape de ce processus, prendre la décision de ne pas se venger. Je crois que le processus du pardon ne peut commencer aussi longtemps que je nourrisse ce désir de me venger. Tant que je continue à me complaire et à m'épuiser dans la situation de victime, je crois que ce désir de vengeance empêche toute cicatrisation de ma blessure, va concentrer toutes mes énergies sur le passé. Et je vous le disais, ce désir de vengeance m'entraîne dans une ronde infernale qui nourrit en moi le ressentiment, l'agressivité, générateur de maladies psychosomatiques. D'ailleurs, les expressions françaises l'expriment bien. Ça me reste en travers de la gorge, je l'ai sur l'estomac, je ne peux pas le digérer, je me fais d'habile avec ça, je n'endors plus, c'est très clair. On ne peut pas être plus expressif. Dans la dynamique du pardon, le premier pas est la décision de ne pas se venger. C'est indispensable pour guérir et grandir. Ceci dit, si je renonce à me venger, il sera aussi nécessaire, dans certains cas, de faire cesser, dans la mesure du possible, la source de l'offense. Des filles victimes d'inceste de leur père ont osé parfois poursuivre leur père ou leur frère en justice. Et des épouses battues ont pu surmonter leur peur et faire appel à la justice pour se protéger contre la violence de leur mari. Il ne s'agit pas de se venger dans ce cas-là, mais de faire cesser l'offense, de faire soigner l'oppresseur. Pas pareil. Deuxièmement, reconnaître, ce n'est pas toujours linéaire ces étapes, reconnaître lucidement ma blessure, pour pouvoir la guérir. Je dois reconnaître et assumer cette souffrance que cette offense m'a causée. Repérer, je dirais, ces émotions qu'il faut assumer, non pas les enfouir, parce qu'elles ressortiront d'une manière ou d'une autre. Troisième point, prendre de la distance par rapport à sa blessure en la partageant avec quelqu'un de confiance. Je crois qu'un des grands aspects insupportables de ma blessure, c'est le sentiment d'être seul à porter ce poids. Et le fait de partager avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne me juge pas, qui ne moralise pas, qui ne m'accable pas de conseils, hein, est important. Le fait de se dire à quelqu'un me permet déjà de prendre la distance avec cet événement blessant. Aussi, savoir se pardonner à soi-même d'avoir tant de mal à pardonner. C'est un véritable travail sur soi qui me fait prendre conscience, entre autres, de mes limites humaines que je dois assumer lucidement. Je crois que le processus du pardon exige de commencer par se pardonner à soi-même, d'être si peu capable de pardonner. Il n'est jamais facile d'assumer notre finitude, d'accepter de ne pas être parfait. Dans la tradition chrétienne, ça s'appelle l'humilité. Non pas excuser, je l'ai dit, mais regarder l'offenseur autrement. Ça aussi, c'est une étape qui n'est possible que si je peux enfin sortir de ma blessure, pour commencer à changer mon regard sur celui ou celle qui m'a offensé, qui m'a fait du tort. Essayer de comprendre, ça ne veut pas dire l'excuser ou le disculper, mais essayer de porter un regard plus lucide sur cette personne, connaître son hérédité, son histoire, ses antécédents familiaux, socioculturels, me permet non pas de l'excuser, mais de me mettre un peu dans sa peau et de comprendre son comportement ou ses dérives. Et découvrir que l'offenseur, dans le fond, est aussi un être fragile, comme moi, mais qui est aussi capable de changer, d'évoluer. Autre étape importante dans le processus psychospirituel du pardon, découvrir un sens positif à cette blessure dans ma vie personnelle. Comment vais-je me servir de cette épreuve pour grandir, Car vous savez qu'au sein de toute épreuve, de tout échec vécu par un homme et une femme, est cachée une fécondité secrète. Il y a des éléments de progrès. Tout échec peut être facteur de progrès. Comment je vais vivre cet événement et m'en servir pour grandir ? Aussi, une étape importante, se découvrir soi-même déjà pardonné. C'est important pour pouvoir pardonner à son tour. L'expérience personnelle, par autrui ou par Dieu, est une expérience fondamentale qui m'a permis d'être reconnu, estimé, en dépit de mes défauts, de mes échecs. Je ne suis pas que mes échecs, que mes défauts. Et le fait d'avoir vécu cette expérience est importante pour pardonner à son tour. Mais je pense que là aussi, à ce niveau, qui est déjà un peu plus spirituel, du processus du pardon, il y a différents blocages qui apparaissent et souvent sont dus à des caricatures de Dieu que je véhicule dans mon inconscient depuis mon enfance, très souvent. Je suis souvent très bien, très souvent rendu compte, après 40 ans d'écoute, de confidence, de voir que combien de gens ont une image de Dieu qui rend le pardon impossible. Ils ne peuvent pas avoir une relation heureuse avec cette caricature de Dieu. Ce Dieu, un Dieu imaginé juge, ce juge sévère, héritier du jansénisme, ce Dieu de l'ordre. Bon, difficile de vivre le pardon avec des caricatures de Dieu. Pour corriger, et c'est souvent la première conversion auquel nous sommes invités, c'est convertir mes images de Dieu. Et nous n'en finissons pas. L'Église elle-même, au cours des siècles, a sans cesse corrigé ces fausses images de Dieu. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quelquefois l'athéisme, c'est les croyants eux-mêmes qui sécrètent par les caricatures de Dieu qu'ils présentent. Bon. Me rappeler que Dieu prend toujours l'initiative, nous le verrons dans quelques instants, du pardon. Comme l'initiative de l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier, dit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4. Enfin, une étape ultime, c'est s'ouvrir à la grâce de pardonner. Bon, la tradition chrétienne, musulmane aussi, judéo-chrétienne, ont raison de dire que Dieu est la source ultime du pardon. C'est vrai. Et je vous l'ai dit, le pardon se situe à la charnière de l'humain et du divin. est un processus psychologique plus ou moins compliqué et long, et la collaboration humaine, donc, et un don de Dieu. C'est Jean Delumeau qui dit que l'arc-en-ciel entre Dieu et les hommes, c'est le pardon. Très belle formule. Parce que l'acte de pardonner est le fruit à la fois de l'effort humain, dans l'activité psychologique, et un don spirituel, une grâce. Une grâce qui vient soutenir mes pauvretés humaines. Et il faut respecter les deux composantes du pardon, humaine et divine. Et je crois qu'à la fin de ce long processus psychologique, je dois cesser de m'entêter à vouloir pardonner en ne comptant que sur mes propres forces. Je dois renoncer à être l'unique auteur de mon pardon, pour laisser la liberté divine agir en moi. Alors, à cette étape, le travail psychologique va céder la place à l'humble demande de la grâce du pardon, à l'attente d'un pardon qui ne vient pas de moi, mais d'un autre. Et je dois donc me laisser aimer en profondeur et être réceptif à cette action mystérieuse de l'Esprit de Dieu qui souffle quand il veut et où il veut. Je pense que le pardon, dans sa phase ultime, ne relève ni de la sensibilité, ni de l'émotivité. Il va émerger du plus profond de mon être, de mon cœur, animé par l'Esprit. Alors là, nous sommes témoins, j'allais dire, de l'action créatrice de Dieu en nous. Comme cet homme au Liban dont je faisais allusion tout à l'heure. De cette présence mystérieuse du Père miséricordieux, de cet amour gratuit. Son amour, cet amour créateur se répand en mon cœur. Et je crois que le pardon est la médiation qu'il choisit pour poursuivre son acte créateur. Parce que nous verrons tout de suite que pardonner, c'est un acte créateur. C'est dire à quelqu'un, tu as encore un avenir possible. C'est refuser d'enfermer quelqu'un dans son passé. C'est libérateur pour l'offenseur et pour l'offensé. Pour l'offenseur parce qu'il n'est pas enfermé dans sa faute, pour l'offensé parce qu'il est libéré de sa rancune, de sa vengeance. C'est pour ça que le pardon, nous verrons que ce n'est pas par hasard. C'est le jour de Pâques que le pardon est donné au Christ, par le Christ. Un acte créateur. Donc le pardon est bien donc dans la gratuité de l'amour. Pardon, par avoir part au don de Dieu, participer à cette gratuité de l'amour. Je crois que le pardon est une expression extrême de l'amour, puisqu'il s'agit d'aimer malgré la blessure, l'offense subie, et que effectivement cela demande des forces spirituelles qui dépassent les simples forces humaines. Enfin, une fois que j'ai pardonné à mon offenseur, je peux décider de la suite à donner à ma relation, où je poursuis la relation avec plus de réalisme, sans doute si je suis marié, par exemple, sur de nouvelles bases, d'une manière moins romantique peut-être, en acceptant l'autre avec ses limites, et aimer quelqu'un c'est l'aimer avec ses limites, ce qui n'est pas évident, parce qu'au début on rêve l'autre, très souvent, ou je décide d'y mettre fin. Là, il ne faut pas confondre le pardon et des relations renouées. D'où la crainte parfois de pardonner à son offenseur par peur de devoir se réconcilier avec lui, de renouer des relations avec lui, de confiance, donc m'exposer à nouveau à lui. Je pense que l'acte de pardonner n'entraîne pas automatiquement l'acte de se réconcilier. Je crois que pardonner, ça ne consiste pas à revenir à la case départ, encore une fois, comme si rien ne s'était passé. Sans doute que la suite la plus souhaitable du pardon, c'est la réconciliation, surtout avec des proches, conjoints, des parents, des enfants, des amis, des collègues de travail. Bon. Mais, encore une fois, si cela est possible, il ne faut pas s'imaginer qu'elle implique de se retrouver comme avant. Elle sera différente. Et il existe même des situations où la réconciliation avec l'offenseur est impossible. Si l'offenseur est inconnu, l'assassin inconnu, ou décédé, ou introuvable, bon. Ou si cet offenseur se révèle endurci, psychopathe, irresponsable, bon, faut-il conclure un pardon impossible? et je pense que c'est même pas souhaitable. Je peux retrouver la paix intérieure, que l'offenseur soit disponible ou non à recevoir ce pardon. Et il y a des circonstances même où cette réconciliation, cette relation renouée, révélerait de la prudence. Et je vous dis, un psychopathe, il ne s'agit pas de s'exposer à nouveau à ses sévices. Ce qui est sûr que si je ne peux pas me réconcilier avec cet offenseur, ce pardon reste bénéfique pour moi, parce que d'abord il me réconcilie avec moi-même, je ne suis plus dominé par le ressentiment, le désir de vengeance, je ne juge plus mon offenseur, et je peux même m'arriver parfois à lui souhaiter le meilleur possible pour son avenir. Bon, ça, je dirais, c'est le versant psychologique. Qu'est-ce que le christianisme apporte de nouveau dans ce pardon? Qu'est-ce que la foi, la révélation judéo-chrétienne apporte dans cette réflexion? Donc, c'est le deuxième volet. Déjà, les auteurs inspirés de la Bible, vous savez que dans la Bible, quand on dit que Dieu parle, ça ne veut pas dire qu'il parle d'une voix off, sur un nuage, comme à Don Patillo, oui Seigneur, non. Il y a beaucoup de gens, encore, quand on dit parole de Dieu, ils pensent que Dieu parle comme ça, du haut d'un nuage. C'est une conception un peu, je dirais, infantile. Nous savons très bien que Dieu, dans la Bible, parle à travers des hommes inspirés, qui s'appellent Moïse, qui s'appellent Abraham, qui s'appellent les prophètes, ces hommes inspirés, qui vont relire, habités par l'Esprit, par l'Alliance, par le projet d'amour de Dieu, les événements de leur peuple, et en faire une parole audible. Dieu parle toujours par la médiation des hommes. Et c'est toujours vrai. Le sommet, bien sûr, étant l'incarnation du Christ. Alors, les auteurs inspirés avaient déjà entrevu cette identité d'un Dieu qui se révèle progressivement. Dieu est un pédagogue patient qui ne demande pas qu'on connaisse tout de son identité d'un seul coup. Mais une des choses qu'ils ont découvertes assez vite, c'est que ce Dieu est miséricorde. Il y a un mot en hébreu, resed, qui est difficile à traduire, qu'on vous traduit tantôt par grâce, amour gratuit, bonté, miséricorde. Bon, c'était sa carte d'identité, première. Et parmi les nombreux fruits attendus de sa fameuse salut messianique, annoncé par les prophètes, aujourd'hui il faut traduire salut parce que l'histoire du salut ça ne dit pas grand chose dans le contemporain. Salut les copains, d'accord, mais à part ça, il faudrait plutôt dire en transposant l'histoire du bonheur. Dieu a un dessein d'amour immense, Dieu veut le bonheur de ses créatures, de l'humanité, et il révèle ce dessein, ce désir de bonheur pour l'homme à travers, j'irai, toute l'histoire biblique et ensuite par le Christ. Et dans cette histoire du salut, du bonheur messianique, parce qu'on l'attendait du Messie qui apporterait ce salut, ce bonheur, parmi ces fruits, il y a toujours, toujours, toujours chez les prophètes le pardon des péchés et la paix. Et manifestement, Jésus, par toute sa vie et son enseignement, manifeste qu'il est l'accomplissement de cette promesse messianique. Ceci dit, on voit très bien que ses disciples vont être profondément choqués, déroutés par la manière dont Dieu va, en Jésus, réaliser cette promesse. À commencer par le Baptiste, le dernier des grands prophètes, qui menace encore ceux qui ne se répandent pas de la colère prochaine de Dieu. Bon, du feu qui consume et qui ne s'éteint pas. Ouais, c'est le discours de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3. Un peu musclé, Les disciples de Jésus eux-mêmes auront beaucoup de mal de se débarrasser de cet instinct de vengeance. Alors que Jésus est en route vers Jérusalem, il traverse la Samarie, comme on va le voir demain avec la Samaritaine, alors que tous les juifs orthodoxes de Jérusalem évitent soigneusement, en passant Transjordanie, la Samarie. Jésus a décidé de traverser la Samarie. Et il envoie deux par deux ses disciples dans les villages où il devait passer, et il y a un village de Samarie qui refuse de les accueillir, parce qu'entre entre les Samaritains et les Judéens, ce n'était pas le grand amour. Hein. Bon. Parce que depuis que la chute de Samarie, le roi d'Assyrie avait amené un tas de colons, c'était devenu un melting pot religieux pas très clair, hein. Comme pour la Samaritaine. Hein. Et donc, les disciples disent à Jésus, réaction immédiate des disciples, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de descendre et de les consumer ?» Mais se retournant, Jésus les réprimanda et ils se mirent en route vers un autre village. Vous voyez, encore une conception musclée qui va être confrontée à l'attitude scandaleuse du Seigneur, qui non seulement accueille et mange avec les pécheurs, mais proclame qu'il n'est pas venu pour condamner l'homme pécheur, mais pour le guérir et lui pardonner. Dans Matthieu chapitre 9, verset 13, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et il reprend à son compte le prophète Osée. Allez donc apprendre le sens de cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non pas le sacrifice. Je ne suis pas venu appeler les justes, ceux qui se croient justes, mais les pécheurs. Donc Jésus manifeste clairement que sa mission terrestre est essentiellement une œuvre de libération. Il est venu libérer l'homme qui est aliéné par le mal. C'est d'ailleurs assez frappant de voir que le premier geste prophétique qu'accomplit Jésus, quand il commence son ministère public à Capharnaüm, c'est de libérer l'homme possédé. Un homme possédé. Sort de cet homme. Donc il n'est pas venu pour juger, mais pour libérer l'homme. L'homme qui est aliéné, qui est, j'allais dire, déshumanisé, défiguré par les forces du mal. Que vous soyez croyant ou pas croyant, c'est une réalité massive. Quand vous regardez, il suffit d'ouvrir sa télévision ou de lire son journal, quand on voit que deux amours sur trois qui commencent finissent par une rupture, il y a bien quelque chose de vicié dans le cœur de l'homme. Appelez ça le mal, le péché, le démon, peu importe, c'est une réalité massive. En nous grouillent le meilleur et le pire. Hein. Et j'ai vu au Liban des gens qui sont capables de risquer leur vie pour leurs voisins, chrétiens ou musulmans, et d'autres, et j'ai vu de mes yeux, qui avaient coupé les têtes qui étaient sur le devant de leur voiture. Quoi va-t-il là ? Il ne peut pas beaucoup changer l'homme depuis des siècles. L'homme est capable du meilleur et du pire. Hein. Bon. Donc le mal est bien une réalité massive. L'homme est complice. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans d'où vient ce mal. Est-ce que l'homme est la seule source du mal ou est-ce qu'il est le complice d'un mal plus cosmique ? C'est un autre débat. D'ailleurs, Jésus montre que Dieu n'est pas du côté du mal. En tout cas, il dit clairement qu'il est venu libérer l'homme de ce mal qui le déshumanise, hein, qui le défigure. Hein. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans votre péché. Bon. Et le péché est une autodestruction. Une autodestruction. C'est l'homme qui s'autodétruit. C'est pour ça que Dieu est malheureux comme un père ou une mère quand il voit une créature qui s'autodétruit, comme le papa et la maman qui voient son fils se droguer ou dériver vers je ne sais quelle déchéance. Et ils n'y peuvent rien. Dieu n'est pas plus puissant qu'un père et une mère quand son enfant veut se détruire. N'oubliez jamais ça. Et Dieu a plutôt envie de pleurer comme une mère, pleure sur son enfant qui se détruit. Dieu ne juge pas. Il va jusqu'au bout essayer de sauver ce fils, cette fille, cette créature. Hein. Donc Jésus dit qu'il est venu non pas pour juger, mais pour libérer l'homme. Il est venu allumer le feu sur la terre, il le dit, non pas le feu de la vengeance ou de la colère divine, mais le feu de l'amour. Cet amour, il est venu pour semer cet amour, j'allais dire pour féconder notre terre, un amour libérateur, un amour créateur. Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Et donc Jésus dit souvent, qui m'a vu, a vu le Père. Donc, il est bien le visage de la miséricorde de Dieu, ce Dieu qui est bouleversé jusqu'aux entrailles, comme une mère devant son enfant qui s'auto-détruit. Bouleversé aux entrailles, Ça, c'est une expression que nos évangélistes reprennent aux auteurs de bibliques. Dans la Bible, ils sont bien sentis que si on ne parle que Dieu au masculin, on risque d'en faire un macho, hein, ou encore plus un grand-père barbu. Alors là, le comble. Hein. Dieu n'est pas plus masculin que féminin. Hein. Si Jésus dit Père, c'est parce qu'il n'a pas trouvé de concept humain plus proche pour exprimer une réalité. Hein. L'amour de son Père, hein. Cette relation filiale que nous avons avec lui. Mais dans la Bible, Dieu est une mère qui est bouleversée jusqu'aux entrailles quand son peuple dérive loin de lui, hein, et s'autodétruit. Bon. Et dans la Bible et dans les évangiles, nos évangélistes réservent le mot, quand on va dire « il eut pitié d'eux », qui est toujours un mot trop faible. En fait, c'est la transposition en grec du mot hébreu « bouleversé aux entrailles ». Ainsi, dans la parabole du bon samaritain, le bon samaritain, devant l'homme abandonné sur le bord de la route, il est bouleversé aux entrailles. C'est comme ça que je sais qu'il s'agit d'abord de Jésus. C'est Jésus qui vient prendre l'humanité qui est là au bord du chemin pour la ramener à l'auberge du royaume de l'amour. Le Père de l'homme. L'évangéliste le réserve à Jésus pour bien montrer que Jésus est bien l'incarnation de ce Dieu de l'Alliance miséricordieux. Ou alors des personnages qui mettent en scène Dieu. Le père de l'enfant prodigue est bouleversé aux entrailles. Donc Jésus, c'est Dieu qui est bouleversé aux entrailles pour l'homme. C'est pour ça que je suis convaincu que Dieu s'intéresse beaucoup plus à mon devenir qu'à mon passé. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas de relation heureuse avec Dieu parce qu'ils sont toujours en train de revenir sur leur passé. Ils pensent que Dieu est toujours en train de remâcher leur passé. C'est faux. C'est faux. Dieu ne s'intéresse qu'à mon devenir. Qu'à mon devenir. Comme une maman, elle sait très bien que son enfant pour apprendre à marcher, pour tenir debout, il est tombé, retombé. Peut-être qu'il aura même des traces sur l'arcade sourcilière ou sur le genou, mais peu importe. Elle ne se souvient qu'en riant de ces incartades de jeunesse qui en est devenu un petit homme. Dieu, c'est pareil. Dieu ne s'intéresse qu'à mon devenir. Et il ne rejette pas l'homme pécheur, l'homme impur, comme le lépreux. Il ne change pas de trottoir, Jésus, au contraire, il le touche et il le purifie. Il s'invite même chez lui. Zachée, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19. Non seulement Jésus proclame le pardon de Dieu, se donne comme le visage de ce pardon qui réhabilite l'homme, et s'il dit qu'il est le médecin, c'est que l'homme est malade quelque part. Quelle que soit ma religion, quelles que soient mes convictions, c'est vrai que l'homme est malade quelque part. Mais non seulement il vient pour le réhabiliter, cet homme, mais il atteste qu'il a le pouvoir. Ça, c'est autre chose. Ainsi, dans la scène de la guérison du paralytique, dans Marc au chapitre 2, par exemple, Jésus dit pas « je te pardonne », mais d'abord « tes péchés sont pardonnés ». Une expression qui renvoie à celui qui est la source de tout pardon, le Père. De même qu'il ne dira pas sur la croix « je leur pardonne », mais « Père, pardonne-leur ». Et la guérison physique de ce paralytique qu'on lui amène n'est qu'un signe, bien sûr, d'une guérison plus radicale, dont Dieu seul a le pouvoir. Parce que, vous le savez, il y a différents niveaux de paralysie. Il y a la paralysie du corps, bien entendu, mais il y a la paralysie de l'esprit, du cœur, de l'âme. Donc Jésus commence par dire une parole qui libère les profondeurs du cœur de l'homme. « Mon enfant, tes péchés sont remis. » C'est pas ça qu'ils étaient venus chercher, mais... Jésus ne fait jamais de miracle pour ébahir les badauds. C'est toujours un signe qui renvoie à une réalité spirituelle. Naturellement, les scribes qui sont témoins de cette scène, ils ne sont pas fous. Les paroles de Jésus font une bombe. C'est une bombe que Jésus vient de lancer là. Et parce qu'eux qui connaissent les Écritures, ils savent très bien que Dieu seul peut pardonner les péchés. Dieu seul est capable de changer le cœur de l'homme. Et Jésus, en disant « tes péchés sont pardonnés », il se fait tranquillement l'égal de Dieu. Il blasphème, dit le texte. Et ils ont raison. L'enjeu est grave. On comprend que pour beaucoup, Jésus va trop loin. Et en accomplissant ce geste de pardon, Jésus a bien conscience de révéler son identité divine. Et il l'assume et il confirme tranquillement ce pouvoir divin et universel. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. Ça dépasse largement le cas du petit paralytique, là. Je te l'ordonne, lève-toi et marche. Bon, il est clair que pour notre évangéliste, Jésus, qui est là, c'est déjà le Christ de Pâques qui remet l'homme debout. Hein. Par lui, c'est Dieu qui fait grâce, qui ressuscite, qui suscite à nouveau la vie. En fond, pardonner, c'est dire à celui qui est paralysé, hein, dans son passé, lève-toi et marche. Hein. Je crois que pardonner, c'est pas refuser de voir la réalité humaine, qui est souvent dramatique, hein, mais choisir ce regard d'espérance que Jésus a posé sur Madeleine, sur Zachée, sur Pierre. Jésus ne pactise jamais avec le mal, qu'il appelle par son nom, qu'il va combattre jusqu'à la mort. Hein. Mais il veut faire triompher la vie. Et donc, on peut dire que Jésus, c'est le visage du pardon de Dieu qu'il dévoile jusque infini sur la croix. Mon Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la démesure du pardon de Dieu. Un Jésus qui dira quelques heures avant de mourir, « Ceci est mon sang de l'Alliance qui va être versé pour la multitude en rémission des péchés. » Dans Matthieu 26. Bon. Je crois que seul l'amour divin pouvait se hisser à un tel niveau pour pardonner. Je crois que le Christ nous révèle à la fois la gravité de notre péché, hein, et en même temps la profondeur de l'amour de Dieu. Comme dit saint Paul, « Là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. » Et enfin, il y a un texte que je voudrais vous livrer, qui est aussi important, c'est les manifestations du Christ le soir de le dimanche de Pâques, dans saint Jean, hein, au chapitre 20 de saint Jean, versets 19 à 23. Hein, le soir de ce même jour, le premier de la semaine, donc le dimanche, hein, puisque pour le juif, le dimanche est un... La semaine se termine par le samedi, le Shabbat, hein. Ce dimanche qui va devenir le jour dominical, le jour du Seigneur pour les chrétiens. Le premier de la semaine, juive, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et s'éteint au milieu d'eux et leur dit « Shalom, paix à vous ». Il leur montra ses mains, son côté, les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur et leur dit de nouveau « Shalom, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé ». Vous voyez au passage que l'Église, ce n'est pas d'abord une structure, c'est d'abord une expérience spirituelle de Jésus vivant au milieu de ses frères. Hein. C'est d'abord ça l'Église. Et une Église qui actualise la mission de Jésus. Une Église qui est missionnaire, charismatique, par nature, par naissance. Comme le Père m'a envoyé, il n'y a qu'un seul missionnaire, c'est Jésus. Hein. Et l'Église va devoir dans le temps et dans l'espace prolonger cette unique mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux. Et ici, saint Jean emploie un verbe qu'on ne trouve que deux fois dans toutes les Écritures, ici et dans la Genèse. Quand Dieu souffle sur Adam, qu'il a pétri de poussière, bien sûr c'est une parabole, hein, c'est la théologie en images, hein, et il a souffle sa roar, son souffle vivant pour que l'homme devienne un vivant. Hein. C'est donc un acte créateur, et ici Jésus souffle sur eux. Acte créateur du Christ de Pâques. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, c'est ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Donc c'est clair que pour notre évangéliste saint Jean, l'événement pascal est bien la source du pardon évangélique. C'est là que l'Église, puise sa mission de réconciliation, ce pouvoir de pardonner. Je pense que ce n'est pas par hasard que vous avez dans cette même séquence la paix, shalom, et le pardon. Il n'y a pas de paix sans pardon. Et l'homme ne peut pas vivre toute sa vie avec le ressentiment au cœur, et que le don du pardon est lié à celui de la paix. Et c'est pourquoi quand ce soir de Pâques, là, le Christ de Pâques, fait le don de la paix et du pardon en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus créateur, hein, je vous disais, que pardonner. Pardonner à quelqu'un, c'est lui dire tu n'es pas que l'échec ou la faute que tu as commise. C'est le regard que le prisonnier attend. Tu n'es pas que la connerie que tu as faite. Combien de fois les aumôniers vous disent qu'ils attendent cette réhabilitation pour retrouver leur dignité, hein. Donc ils attendent ce regard qui va les réhabiliter et ne pas les enfermer dans leur passé. C'est très important, hein. Faire confiance, faire confiance. Le mot foi et confiance, c'est la même racine, hein. Croire que l'homme n'a pas tout dit, hein. Croire qu'il peut encore progresser. Vous savez qu'un des grands dangers dans nos relations humaines, c'est de figer l'autre dans son passé, hein. Je pense qu'il faut avoir une conception dynamique de l'être humain. L'être humain est une promesse d'avenir. C'est une histoire ouverte. Je n'en finis pas de sortir de ma chrysalide de terre. L'homme doit faire l'homme d'abord. L'enfant, au début, c'est un petit animal centré sur lui-même, avec ses pulsions, ses besoins, ses tendances. Et malheureusement, il y en a qui ne sortent pas de ce stade. Tout est centré sur lui, autour de lui. Puis peu à peu, il faudra qu'il s'ouvre. Et qu'il s'ouvre, qu'il passe de l'égocentrisme à l'altérité, au don de soi. Hein? Et c'est ainsi qu'il va devenir un homme. Parce que c'est bien l'amour qui va l'humaniser. C'est l'amour qui va aussi le diviniser, le rendre fils. Je n'en finis pas de devenir un homme, un fils sous le regard du Père, et un frère et une sœur pour les autres. Tout ça, c'est lié. Hein, et c'est l'amour qui fait cette croissance. Je crois qu'un être humain n'en finit pas de se révéler à lui-même et aux yeux des autres. Nous sommes tous par nature des êtres inachevés. Par nature. Je deviens... C'est pas vrai que le petit être qui arrive est un homme. C'est pas vrai. Il va falloir que l'homme invente l'homme. Hein, qu'il sorte de cette chrysalide de terre. Hein. Malheureusement, il y en a, encore une fois, qui toute leur vie sont centrés sur eux-mêmes, ne vivent que pour eux-mêmes. Bon, c'est dommage. Ils restent à cette première étape de la croissance. Et c'est la chaleur de l'amour qui fait l'essentiel de cette croissance. Vous savez très bien qu'un homme ne grandit, ne progresse que devant ceux qui croient en lui, qui lui font confiance. C'est vrai de l'enfant à l'école, c'est vrai de l'adulte à son boulot, c'est vrai du prisonnier. Encore une fois, pardonner, c'est pas refuser. Ça veut pas dire que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Je pense que c'est pas ça. C'est avoir un regard. C'est le regard de Jésus. Hein, c'est pas un pieux aveuglement, mais c'est refuser comme Jésus d'identifier l'autre au mal qui le ronge, qui le défigure. Il n'a jamais identifié Madeleine à son péché. Il lui a dit Madeleine, tu es plus que ton péché. Invitation à aller plus loin, à rebondir. C'est ça qui a converti, je dirais, le repentir de Pierre. Il ne faut pas confondre le remords. Le remords, c'est Judas. Judas est rentré en lui-même, et ce qu'il a vu l'a tellement épouvanté qu'il s'est pendu. Il n'en était pas sorti. Alors que Pierre, qui avait aussi renié son maître, Jésus sortit et regarda Pierre, et Pierre sortit en pleurant. Sans doute que dans le regard de Jésus, il devait y avoir cette immense compassion. Il disait, mon pauvre Pierre, dans quel pétrin tu t'es encore mis? Ne reste pas là, tu seras trop malheureux. Reviens et affermis tes frères. Voilà. C'est la différence entre le remords et le repentir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je pense que nous avons à avoir ce regard, dire que tout être n'en finit pas de rebondir. Laisser à l'autre le temps de grandir, de chanceler, de se relever, de retomber encore. Accepter que sa vie est une immense bataille, comme la mienne, où on est tiraillé par des forces contraires, intérieures et extérieures. Comme disait Léon Blois, j'aime beaucoup cette phrase de Léon Blois, « Je suis bien pire que vous ne croyez, et bien meilleur que vous ne pensez. » Et les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Oui. Pardonner, c'est être convaincu que mon frère, mon mari, mon conjoint, mes enfants, celui qui m'a offensé, a besoin d'être aimé pour devenir lui-même. Ça n'empêche pas tout le processus que je vous ai dit, hein, attention. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Il ne faut pas avoir une spiritualité désincarnée. Mais c'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est l'amour qui va faire la croissance, le facteur essentiel de croissance. Vous savez, moi je crois que nos frères attendent souvent qu'on les aime pour devenir meilleurs, et nous attendons qu'ils soient meilleurs. pour les aimer. Je crois que ce regard, c'est ne jamais réduire l'autre à ses défauts dominants, à son handicap, à son blocage psychologique. Faire confiance, c'est aider l'autre. Ah, si vous, nous pouvions, pendant ce carême, prendre la décision d'être toujours positif et jamais négatif, de mettre davantage en lumière ce que l'autre fait de bien, et non pas ce qu'il fait de mal, hein. Savoir s'émerveiller de ce que l'autre fait. Hein. Et dans un couple, avec une famille, c'est important. Il ne s'agit pas de flatter, il s'agit de... Bon, quand... Oui, je crois que... Savoir lui dire, ah bien le plat que tu as fait aujourd'hui, il est merveilleux. Hein. Bon. Il y a des hommes qui oublient parfois de le dire. Hein. Bon. Et je pense, l'histoire et mon expérience montrent que combien d'hommes et de femmes qui au point de départ étaient défavorisés, j'allais dire socialement, culturellement, dans leur jeunesse, ont été capables, grâce à un éducateur, grâce à un ami, qui leur ont fait confiance, de se surpasser. Je crois que faire confiance, c'est croire que l'autre a besoin de découvrir dans mon regard, dans mes paroles, toutes les richesses qu'il possède en lui-même, et qu'il a besoin de découvrir. Oui, l'homme, c'est comme une plante qui a besoin de l'amour comme la fleur du soleil, oui, pour devenir lui-même. Et je crois qu'il faut, au moins, posez-vous une seule question pendant ce carême. Pour moi, c'est la question essentielle. Quel climat de confiance je crée autour de moi, oui. Vous savez, nous émettons tous des ondes d'agressivité. Quel climat nous connaissons tous, quand on fait des réunions, des gens, quand ils sont là, en ont envie d'être meilleurs. Ils suscitent l'initiative, la créativité. D'autres, au contraire, quand ils sont là, on serre les fesses ou on est paralysé. Hein? Bon, pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que, d'un côté, il y a des ondes d'amour, hein? La confiance, c'est vrai au niveau du curé qui réunit ses paroissiens, c'est vrai au niveau de l'entreprise, c'est vrai. Bon, quel climat de confiance je diffuse autour de moi, hein? Bon, je terminerai en disant, mais faut pas rêver, c'est vrai qu'il y a parfois des êtres tellement blessés dans leur cœur, dans leur âme, que même notre amour, notre pardon, semble incapable de guérir leurs blessures profondes. Leur être est cassé. On fait un constat d'impuissance. Vous êtes tous rencontrés comme moi, je pense en particulier à ces multirécidivistes. Quelquefois on se dit, on a tout essayé. Et je crois qu'il ne faut pas que ça génère en nous une mauvaise culpabilité. Quand on a tout fait, ce qui était en notre pouvoir, il faut les confier au Seigneur. Moi, je pense que, effectivement, il y a des gens tellement brisés que Dieu seul pourra, au-delà de cette étape terrestre, leur faire découvrir leur véritable richesse. Ils sont tellement englués dans leur gang de terre que... Il faudra attendre l'au-delà pour que se révèle à leurs propres yeux le trésor qu'ils avaient en eux-mêmes, mais qu'ils n'ont pas su voir, qu'ils ne pouvaient plus voir parce qu'ils étaient trop cassés, trop blessés. Bon. Mais en général, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes malheureux, blessés, mal dans leur peau, que d'hommes foncièrement mauvais. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Il y aurait bien des choses à dire, mais... Comme dirait le libraire, lisez le livre et vous aurez la suite.
Le pardon, vous venez de suivre une conférence du père franciscain Michel Hubeau, une conférence enregistrée à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte le 23 février 2008.